Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Chindani.
Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les titres. 34e anniversaire de la manifestation du 16 février 1992, Martin Fayulu agressé après avoir assisté à une messe hier à Saint-Joseph. Le porte-parole de la Mouka accuse les jeunes des forces du progrès, proches de l'UDPS qui serait à la base de cette agression. Faux, rétorque un cadre de l'UDPS, les forces du progrès n'ont jamais mené une attaque contre les partisans de la Mouka. Nous parlerons aussi dans ce journal de plus de 80 ressortissants congolais vivant en Zambie, interpellés en Douala, dont certains ont été même expulsés de ce territoire. Et pour cause, ces personnes sont accusées de séjour irrégulier en Zambie, selon des sources sur place. Pour la première fois depuis la fermeture de l'aéroport de Goma en raison de la guerre, un hélicoptère de la MONUSCO a atterri le jeudi 12 février à cet aéroport. Vous allez suivre la porte-parole de la MONUSCO, Madame Kadilo, qui est revenue sur les différents aspects de cette question dans l'émission Dialogue entre Congolais de ce lundi 16 février. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous commençons ce journal par le 34e anniversaire de la marche des chrétiens. C'était hier lundi 16 février. Des messes ont été célébrées à Kinshasa pour commémorer cette date qui rappelle le jour où des chrétiens sont morts pour avoir réclamé la réouverture de la conférence nationale souveraine en 1992 à la paroisse Saint-Joseph à Matongé dans la commune de Kalamu. Mais la messe organisée hier lundi dans la même paroisse en mémoire des victimes de cette date s'est mal terminée selon le porte-parole de la coalition Lamouka. Pour Prince Epengue, les fidèles de la coalition Lamouka ont été attaqués par des jeunes des forces du progrès proches de l'UDPS juste après la messe, précisément devant leur siège sur l'avenue de l'enseignement. Le président du parti politique ADD Congo et porte-parole de Lamouka Prince Epengue a été joint par Radio Okapi. Suivez.
Comme nous l'avions annoncé à notre peuple, nous étions aujourd'hui à la paroisse catholique de Matongé, Saint-Joseph, pour rendre hommage aux martyrs de la démocratie tombés sous les balles de Mobutu en 1992 pour exiger la réouverture de la conférence nationale souveraine. La messe a connu un succès fou avec plus de 3000 militants de la Mouka et la présence du président Martin Fayulu. Après la messe, nous avons accompagné le président Martin Fayulu pour rentrer dans nos sièges respectifs. Arrivé si triomphal, avec l'enseignement devant les sièges ADD Congo, il y a une base de la force du progrès de l'IDPS où il y a beaucoup de Wewala et de motos qui nous ont attaqués. Ils ont attaqué le cortège du président Martin Fayulu. Et après le cortège de Martin Fayulu, ils se sont abattus sur les sièges ADD Congo et ils ont tout cassé avec des machettes, des barres de fer. Nous condamnons fermement. Et nous disons plus jamais ça. Une plainte sera déposée à toutes les organisations des droits de l'homme. Il faut démonter les forces du progrès du DPS. C'est une menace pour la paix, pour la sécurité de tous les Congolais et de tous les Kinois.
Réaction immédiate de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pour ce parti politique, les forces du progrès n'ont jamais mené une attaque contre des partisans de la Mouka. Selon un cadre de l'UDPS, les forces du progrès sont bien organisées et elles n'ont jamais été une milice. En plus, ajoute-t-il, c'est plutôt un mouvement qui est régi par la Ligue de l'UDPS. Gustave Lutumba, cadre de l'UDPS, est joint par Radio Kapi.
Je vis des vidéos qui circulent dans des réseaux sociaux. L'une des vidéos où je vis Prince Epengue dans son siège de l'ADD Congo avec quelques-uns de ses membres se réclamant être agressé par la force du progrès. Mais malheureusement, je n'ai vu aucune image à l'intérieur tout comme à l'extérieur où il y avait cette force du progrès-là. Mais dans la deuxième vidéo où je vis Prince Epengue à bord du véhicule Kabasele de la police, je vis à l'extérieur de ces véhicules, il y a quelques jeunes là, et ces jeunes là faisaient des mouvements, et en orientant leur regard vers le véhicule. Ce qui veut dire peut-être qu'ils s'adressaient à Prince Epengue. Mais je voudrais préciser une chose, parce que quelque part, la Prince Epengue a dit que c'est la milice de l'UDPS, c'est la Force du Progrès. Ce n'est pas la Force du Progrès, parce que la Force du Progrès est très bien organisée. Ce n'est pas aussi une milice, la Force du Progrès. C'est un mouvement informel, mais qui est régi par la Ligue des Jeunes de l'UDPS.
Plus calme du côté du Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques du Congo, un des organisateurs de cette marche du 16 février 1992. Dans une déclaration publiée à l'occasion justement de cet anniversaire, le CALCC appelle la classe politique congolaise à un dialogue inclusif. Ce conseil reconnaît à travers son message qu'il n'y aura pas de paix véritable sans conversion nationale, sans introspection collective, bref, sans dialogue inclusif, comme les suggèrent les églises catholiques et protestantes. Askin Zigbia.
34 ans après la marche prophétique du 16 février 1992, ces conseils en retracent d'abord la mémoire. Ces jours-là, nos pères, nos mères, nos devanciers sont sortis des églises désarmés. Ils ont affronté la balle par la prière. Ils ont défié la dictature par la foi. À la violence, ils ont opposé la vérité. À la mort, ils ont répondu par l'espérance. Ils ont marché pour la lumière, celle qui éclaire les consciences. Ils ont marché pour la dignité, celle qui relève l'homme. Ils ont marché pour les biens vivre ensemble, c'est lui qui fonde la fraternité et construit la paix dans les familles, dans les communautés et dans toute la nation. Nos devanciers sont tombés, mais ils n'ont pas échoué, indique le document. À travers cette déclaration, le Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, reconnaît que le peuple pleure toujours. À l'est de la RDC, les armes parlent sans cesse. Dans la vie publique, la confiance s'effondre. Dans le foyer, les larmes coulent. Dans les camps de déplacés, la souffrance règne. Face à cette situation, le CALCC affirme qu'il n'y aura pas de paix véritable sans conversion nationale, sans introspection collective, sans vérité assumée. C'est pourquoi il propose une démarche de dialogue superposé. Dialogue de communauté, dialogue des experts, dialogue politique inclusif et dialogue des grands lacs.
Pour clore ce dossier, notez que le collectif du 16 février a aussi fait entendre sa voix. Il recommande la non-violence comme solution à toute revendication en RDC. L'un des membres de cette structure, Abbé José Mpundu, a insisté sur la mise en œuvre de cette valeur hier lundi, toujours lors de la commémoration du 34e anniversaire des martyrs de la démocratie ici à Kinshasa. Ce prélat catholique encourage la non-violence évangélique, gage de l'avènement de la démocratie en RDC, a-t-il souligné. Reportage Blaise Ndongala Mayanda.
34 ans après la marche du 16 février 1992 demeure une leçon de démocratie et un témoignage de l'importance de la lutte non violente en RDC. Pour l'abbé José Pundu, cette marche constitue une victoire du peuple pour avoir ouvert la voie à la démocratie en RDC, alors République du Zaïre. Il estime qu'il faut raviver cet esprit en se débarrassant des antivalères telles que la haine, la division et en promouvant l'amour, la fraternité et l'unité afin de tracer la voie du développement.
Mettons-nous ensemble et réfléchissons sur les 6 questions suivantes. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Où voulons-nous aller? Et comment y arriver? Voilà les 6 questions du dirigeant au dernier des Congolais, nous devons nous poser. Et les réponses à ces questions ouvriront un espace pour construire ensemble un autre Congo.
Membre de la commission Justice et Paix de la paroisse Saint-François des Sales, Jean-Baptiste Ndundu encourage les Congolais à intégrer les valeurs de la philosophie Ubuntu qui prône le vivre ensemble. La solidarité et l'interdépendance. Cette philosophie met en avant la communauté, la compassion, le respect et le pardon. Cette commémoration est considérée comme un rendez-vous générationnel pour honorer les martyrs de la démocratie et réaffirmer les rôles des organisations de la société civile face aux dérives observées dans les pays.
Autre nouvelle, plus de 80 ressortissants congolais vivant en Zambie, interpellés en Douala, dont certains ont été même expulsés de ces territoires. Résultat d'une opération menée ce week-end par les départements zambiens de l'immigration. Et pour cause, ces personnes sont accusées de séjours irréguliers en Zambie selon des sources sur place. Les départements de l'immigration zambien rappellent que tous les ressortissants étrangers sont tenus de se conformer aux lois sur l'immigration du pays. Les détails avec Paul Mounanga.
D'après les autorités zambiennes, plus de 170 personnes de différentes nationalités sont soupçonnées d'être des immigrants illégaux. Parmi ces personnes, il y a plus de 80 ressortissants congolais, d'autres personnes dont la nationalité n'a pas encore été déterminée et des réfugiés d'origine congolaise. D'après certaines sources, cette opération a été menée par le département zambien de l'immigration avec le soutien d'autres services de sécurité zambiens. L'opération a ciblé les zones comme Île Crest, Mitengo, Kawama, Kansenshi et Dola Hill dans la ville d'Endola. Après le processus de filtrage et de vérification, 15 réfugiés d'origine congolaise ont été tenus de se relocaliser au camp des réfugiés de Meheba en Zambie. 10 adultes congolais accompagnés de 26 mineurs sans papier ont été expulsés de la Zambie via les postes frontaliers de Sakanya, rapportent certaines sources. D'autres ressortissants congolais ont été priés de quitter le pays après avoir étudié sans titre de séjour valide et 5 ressortissants congolais reste en détention dans l'attente de l'enquête et d'éventuelles poursuites judiciaires. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et puis un calme relatif est revenu à Bafoua-Sendé après les incidents sanglants survenus dans le groupement des Bafoua-Zongo le dimanche 15 février courant. Les deux victimes fauchées par des balles tirées par des policiers ont été inhumées hier lundi. Selon l'administrateur du territoire des Bafoua-Sendé, les forces de l'ordre débordées au moment de leur intervention pour rétablir le calme ont dû courir à leurs armes et blessant mortellement deux civils. Réagissant face à ces comportements, le député national élu de Bafoua-Sendé, Justin Bendesana, condamne fermement cet acte et exige qu'une enquête impartiale soit menée afin d'établir les responsabilités. En même temps, il exhorte la population au calme. On écoute Justin Bendesana, élu de Bafoua-Sendé, dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkole.
Je dénonce avec la plus grande fermeté la bavure policière survenue à Bafoua-Sendé ce dimanche 15 février 2026. Cet incident tragique a coûté la vie à deux civils et grièvement blessé deux policiers, ravivant ainsi des tensions dans un contexte déjà fragile. Au regard des récents événements sécuritaires à Kisangani, nous ne pouvons permettre qu'un nouveau foyer de tension s'installe à Bafoua-Sendé, territoire frontalier de la ville de Kisangani, et serve de terrain d'exploitation aux ennemis de la République. Nous exigeons qu'une enquête sérieuse, transparente et impartiale soit menée afin que les responsabilités soient clairement établies et que le coupable soit puni selon les lois de la République. Défendre la République, c'est aussi protéger les populations, faire respecter la discipline et garantir la justice. Et j'en appelle à la population de Bafoua-Sendé de rester calme car le pouvoir public se charge de l'affaire. Restons unis et attachés à la paix derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi.
Rappelons que ces incidents sont consécutifs au décès d'une femme après une longue maladie. Son mari était convaincu que le chef de groupement lui aurait jeté un mauvais sort. Place à cette précision à présent au sujet d'une éventuelle suspension ou démarrage de l'opération de contrôle des mototaxis. Le ministre provincial des Transports réformel, c'est une folle rumeur. Selon Jésus-Noël Cheke, déjà cette activité de démarrage de contrôle des motos n'a jamais été dans leur programme. On écoute ces explications au téléphone de Benjamin Moudoumbi.
Il faut déjà noter qu'il ne s'agit pas de la suspension d'une opération de contrôle, parce que cette opération de contrôle, ça n'a jamais figuré dans l'agenda des activités que nous avions déployées sur ce terrain. Donc ce que je puis vous dire, qu'il n'existe à ce jour aucune opération de contrôle routier spécifique visant exclusivement les motocyclistes sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. C'est une folle rumeur que nous avions tenu à démentir au moyen d'un communiqué que nous avions rendu public aujourd'hui. Seules les opérations en cours récemment lancées par son excellence monsieur le gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki, c'est-à-dire la mission mixte permanente des régulations routières, qui continue car c'est une mission permanente et pérenne, et cette mission qui vise à rétablir d'abord l'ordre et terminer les désordres qui sévit aujourd'hui à travers nos routes, avec entre autres objectifs également le rétablissement de l'autorité de l'État sur la voie publique.
Restons toujours dans la capitale pour vous signaler que l'hôtel de ville de Kinshasa a débuté depuis hier lundi à la délimitation des zones où les constructions anarchiques seront démolies dans la baie de Ngaliema. L'annonce a été faite samedi 14 février par le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba. Ce, à l'issue d'une descente sur le terrain menée aux côtés du vice-premier ministre de l'Intérieur. D'après Jacquemin Chabani-Louko, l'opération vise à restaurer l'ordre urbanistique et à libérer les emprises publiques occupées illégalement. Cela pour prévenir les risques majeurs, notamment les inondations récurrentes, garantir une distribution d'eau potable et sécuriser durablement les populations de Kinshasa, a-t-il souligné. D'autres détails avec vous, Alain Irongo-Mouchenji.
Cette urbanisation désordonnée dans la baie de Ngaliema obstrue le point de captage de la régie des eaux qui alimente plus de 14 communes de la capitale. René Tokodiatoulou, directeur de la distribution de la régie des eaux Ouest, explique que cette situation compromet l'approvisionnement en eau potable.
Nous avons pu fonctionner normalement à cause de l'occupation anarchique de cet espace. Il y a des travaux qui ont fait que l'eau ne s'est plus coulée normalement et notre captage dont nous sommes ne s'est plus fonctionné.
À l'époque, on avait 8 mètres de profondeur entre la crépine et le fond du fleuve pour prendre l'eau. Nous sommes à moins de 2 mètres. Ce qui fait que lorsque nous captons l'eau, on a même de sable. Les sables détruisent maintenant nos pompes.
De son côté, le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, regrette que malgré les précédentes opérations de délimitation des zones interdites à la construction dans la baie de Ngaliema, certaines personnes persistent à enfreindre les règles.
Je préfère annoncer à nos frères et sœurs qui investissent ici de cesser parce qu'ils vont perdre leur investissement pour rien. On va délimiter les zones. Encore une fois, parce qu'on avait des limites. Et si vous regardez à gauche et à droite, vous allez voir que nos amis, nos frères et sœurs continuent de perdre de l'argent, continuent à construire.
Léon Moulumba a confirmé que les démolitions débuteront au cours de cette semaine.
Actualité internationale.
À Madagascar, le dernier des comptes publiés lundi 16 février par le Bureau national de gestion de risques et des catastrophes fait état des 59 morts et 15 disparus après le passage du cyclone Gazani. Sur le terrain, les urgences s'accumulent. L'une d'entre elles est la santé mentale des sinistrés. Un dispositif de soutien psychosocial a été mis en place pour soulager l'angoisse ou la tristesse des habitants.
L'invité.
Pour la première fois depuis la fermeture de l'aéroport de Goma il y a un an, en raison de la guerre, un hélicoptère de la MONUSCO a atterri le jeudi 12 février à cet aéroport. La porte-parole de la mission des Nations Unies en RDC, Madame Kadilo, est revenue sur les différents aspects de cette question dans l'émission Dialogue entre Congolais de ce lundi 16 février. On l'écoute au micro de Guimate Tsongo.
Madame Kadilo, porte-parole de la MONUSCO, quel sens la MONUSCO donne à l'atterrissage de son hélicoptère à l'aéroport de Goma?
Nous donnons à cet atterrissage un sens symbolique d'espoir, un signal opérationnel important. Vous savez, après une très longue interruption de l'accès aérien à la ville de Goma, cet atterrissage permet de tester la faisabilité et la sécurité des accès, ce qui est essentiel pour les mouvements liés à notre mandat de protection des civils. Cet atterrissage s'inscrit aussi dans nos efforts visant à appuyer les préparatifs du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à la résolution 2808 de 2025. Donc c'est un symbole et un signal d'espoir.
On se rappelle comment la rébellion avait réagi lorsqu'à la conférence de Paris en octobre 2025, il avait été annoncé la prochaine réouverture de l'aéroport de Goma. Maintenant qu'il y a cet hélicoptère qui a atterri à cet aéroport, quelle a été la contrepartie pour que l'AFCM23 puisse autoriser cet atterrissage?
Il ne saurait y avoir de contrepartie quand la MONUSCO est impliquée dans des actions comme ça. Vous savez, la mission agit dans le cadre de son mandat et sur la base d'arrangements pratiques visant à garantir la sécurité et la prévisibilité de ses mouvements. Cet atterrissage a été préparé autant avec les autorités nationales ici à Kinshasa qu'avec des contacts réguliers. Nous avons des collègues qui sont basés à Goma et ce, en vue d'éviter tout incident, notamment via une coordination technique et sécuritaire. Notre priorité est la sécurité de notre personnel et le respect des principes des Nations Unies. Donc, parler de contrepartie ne semble pas être le mot qu'il faut.
Alors, est-ce que ce n'est pas le début d'un processus, n'est-ce pas, qui pourrait aboutir à la réouverture de l'aéroport de Goma?
Comme l'a dit la représentante spéciale du secrétaire général par intérim à son atterrissage à Goma, elle était dans le dernier appareil qui est arrivé dans la ville le 27 janvier 2025 et elle est aussi dans le premier qui atterrit après l'interruption de l'accès aérien à la ville. Donc cet acte ne saurait être isolé dans le cadre du processus dans lequel nous sommes tous impliqués et pour lequel nous espérons que tout soit couronné de succès. Donc prenons cet atterrissage comme un symbole allant dans le sens d'une normalisation.
On sait que les fronts partent du Grand Nord, du Nord Kivu, jusqu'au Sud Kivu, en passant par Bukavu, Uvira et jusque dans les hauts plateaux. Est-ce que la MONUSCO a assez de ressources humaines, n'est-ce pas, à déployer sur ces vastes espaces?
Le territoire, il est vaste, mais je pense qu'il est nécessaire de faire une différence entre les différentes zones que vous venez de citer. Au Nord Kivu et en Ituri, la MONUSCO a un mandat, un plein mandat de protection des civils et le mandat donné par la résolution 2808-2025 concerne ces deux zones qui sont les zones de déploiement de la mission. Mais quand il s'agit des hauts plateaux, de Bukavu, d'Uvira, du Sud Kivu en général, il ne s'agit que d'un mandat limité au suivi du cessez-le-feu. Donc il y a cette différence à faire. Donc pour ce qui est de l'espace vaste, c'est une réalité géographique avec laquelle nous faisons. L'espace est vaste et le contexte complexe selon les zones. La réponse n'est pas d'être partout, mais de travailler avec une approche qui permet d'être en priorité dans les zones où les incidents sont les plus nombreux, dans les hotspots, comme on le dit dans notre jargon.
L'un des défis de la MONUSCO, c'est le manque de confiance entre les parties prenantes, comme l'a constaté récemment le secrétaire général des Nations Unies, qui estime que le cessez-le-feu ne pourra réussir que si il y a cette confiance mutuelle entre les parties. Mais si la méfiance persiste, qu'est-ce qui est envisagé par la MONUSCO?
Alors, il faut juste comprendre que dans des circonstances comme celles qu'on vit, chaque pas est un pas en avant. Et donc, il faut prendre, comme on dit, one step at a time en anglais. Donc, pas à pas, on va y arriver. La méfiance est un fait. Et justement, un mécanisme de suivi et de vérification sert à réduire les incertitudes par des procédures communes et des constats crédibles, donc qui permettront de réduire la méfiance et de réunir tout le monde autour de l'essentiel, qui est d'avancer vers la paix.
C'était l'invité de ce journal, la porte-parole de la MONUSCO, Madame Kadilo, qui répondait aux questions de Guy Matetsongo. Et c'est ce qui met fin à ce journal coordonné et supervisé par Lievin Mwinga Vubu et mis en onde par Alain Goy. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.